Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Comme chaque semaine, nous allons traiter l'actualité. On commencera par Kickstarter. Ensuite, on vous fera une petite récap des annonces récentes de la Wii U. Et oui, parce que bon, comme on a pris un peu de temps à redémarrer les podcasts, on s'est dit que bon, pour la première, on reviendrait sur 2-3 points qu'on a ratés pendant la rentrée, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons parler de la nouvelle console de Sony. Quel suspense. Puis, on donnera notre sentiment sur le TGS. Et puis voilà, on parlera de dates, etc., de certains jeux qui ont été annoncés pendant l'été, n'est-ce pas? Et enfin, on finira par tes impressions, Morgan. Tes impressions sur un jeu, et ce jeu c'est
XCOM Enemy Unknown.
Ok, donc salut Morgan.
Salut à toi.
Je crois que tu as une annonce à faire à nos très chers auditeurs cette semaine.
Oui, alors je suis pas certain d'être beaucoup là dans les podcasts pendant cette saison, mais je vais faire mon possible. Parce que je pars à l'étranger pendant l'année scolaire, donc j'espère pouvoir être là, mais je vous garantis rien. Donc si je disparais, le tyran me trouvera des alibis magnifiques, comme il en a le secret. et puis voilà.
Salut ATH.
Bonjour à toutes et bonjour à toutes.
Les mecs, tu t'en fous, quoi.
Bah, non, j'ai dit bonjour à tous et bonjour à toutes. Il faut écouter.
Non, t'as dit à toutes et à toutes.
Bonjour à toutes.
Mais on te reconnaît bien là.
Bonjour aux enfants, aux femmes, aux grand-mères, aux papiers, aux mamies, aux chiens, aux chats, aux animaux.
Fais gaffe, à TH, je
pense à ta meuf. Ça commence à devenir d'autres, il là-dedans.
C'est pas bien ce que tu fais, là. Bon, allez, on va commencer par Kickstarter. Alors, je vais vous parler de 3 projets cette semaine. Alors, le premier s'appelle Black Space. C'est un projet assez original. En gros, vous allez contrôler une espèce de drone. Et ce drone a pour mission de miner un astéroïde. Alors, comme ça, j'entends certains dire Minecraft. Hein, n'est-ce pas? Minage, Minecraft. En un sens, vous avez raison, mais vous avez tort aussi. Déjà, vous avez tort parce que le jeu est juste super beau. Mais vraiment, c'est... Le prototype qu'ils ont montré, c'est très très impressionnant, que ce soit au niveau de la physique, ou même la gueule du jeu, franchement, c'est vraiment super. C'est pas du tout un truc cubique, enfin, s'il y a des cubes dedans, mais disons que, voilà, quoi, ça a pas la gueule de la Minecraft, quoi, on va dire. Ensuite, contrairement à Minecraft, il y aura dans ce jeu un aspect gestion et stratégique, c'est-à-dire que vous allez devoir, des éléments que vous allez récolter, vous allez devoir construire une base, et cette base, vous pourrez construire des tourelles de défense, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y aura des envahisseurs qui viendront de temps à autre pour attaquer votre base, et donc, avec votre drone et votre base, ça fera un peu genre un tower défense, et vous allez devoir défendre votre base. Et franchement, le concept a l'air super cool. Alors, il demande 350 000 dollars, mais malheureusement... De ce que j'ai vu, le Kickstarter montait pas très vite, et je trouve ça très dommage, parce que, franchement, c'est un projet qui a des choses à montrer, qui est beau, et je pense que les 350 000 dollars, il les vaut, quoi. Bon, après, encore une fois, Kickstarter, c'est un truc qui se fait sur la confiance, si vous avez pas confiance, si vous le sentez pas, n'y allez pas, parce que vraiment, faut toujours avoir conscience sur Kickstarter qu'on prend un risque. Non. Toujours bien de le rappeler, n'est-ce pas? Alors, Sea Ark, c'est un peu mon petit coup de cœur de la rentrée, si vous voulez. C'est vraiment le petit jeu tout choupiné qui a vraiment une bonne bouille. Alors, en gros, c'est un jeu où vous allez jouer une jeune fille, mais pas n'importe quelle jeune fille, en fait. C'est une petite jeune fille en pixel art qui est une pêcheuse, en fait. Non, je vous arrête tout de suite, hein, pas une pêcheuse au sens biblique du terme, hein, n'est-ce pas?
Une pêcheresse.
voilà, c'est une pêcheuse qui attrape des poissons, n'est-ce pas?
Et
Et
pas une grosse.
non, ATH, s'il te plaît, on se maîtrise,
Mais j'ai dit ouais,
merci.
je me suis
C'est la
censuré.
rentrée.
Ouais. Je
Bienvenue
te
sur Game
surveille.
Info.
voilà. Et donc, en gros, moi, ce qui m'a tout de suite attiré l'œil, outre le fait que c'est vraiment du pixel art et que il y a quelque chose qui se dégage de la vidéo, le concept, c'est une sorte de Harvest Moon. Donc, je sais pas si vous connaissez cette
Bien sûr.
simulation fermière japonaise, n'est-ce pas?
Ouais.
Ou sauf que là, en fait, c'est Harvest Moon appliqué à la mer,
D'accord.
dans un univers open world, où vous allez recruter 16 compagnons, et il y aura aussi des romances, etc. Il y aura plusieurs trucs, et franchement, ça y a l'air d'avoir plein d'idées, ça a l'air très sympa. Alors bon, pour le coup, c'est un Kickstarter qui a pas trop besoin d'aide, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé la personne derrière, parce qu'en gros, il y a deux personnes. Hein, il y a derrière ce jeu, il y a la personne qui fait tout le code, etc., l'art,
Ouais.
etc., et il y a la personne qui fait la musique. Et
D'accord.
donc, elle a demandé une très petite somme.
Ouais, 5 000 $, ouais.
Ce qui s'est passé, c'est que bon, elle a explosé cette somme-là, et que vous savez que sur Kickstarter, des fois, ça arrive qu'on rajoute des paliers supplémentaires. Genre, si on atteint cette somme, alors à ce moment-là, je pourrais faire ça. Le truc, c'est que là, en fait, elle s'était fixée une deadline de 9 mois. Elle en est à 30 000 dollars et elle a dit, au-delà de 30 000 dollars, je pourrais pas faire quelque chose en plus. Donc là, vraiment, si vous y allez, c'est pour commander le jeu, c'est pas pour aider le projet, quoi. Faut être clair là-dessus. Donc, quoi qu'il en soit, l'avenir du projet est assuré. Mais je voulais juste en parler, attirer votre attention dessus, parce que je pense que c'est un projet où il y a de l'idée. Ça a une bonne bouille, enfin, il y a mon cœur palpite quand je vois ces images. En plus, la musique est superbe. Franchement,
Et quoi qu'il arrive, il arrivera l'année prochaine, du coup.
ouais, dans 9 mois.
Super.
Comme un bébé.
Voilà. Ensuite, alors là, c'est le Kickstarter de la rentrée. C'est le Kickstarter chapeauté par Obsidian. Alors, Obsidian, je précise, hein, en gros, c'est des anciens de Black Isle. Black Isle qui a bossé entre autres sur Baldur's Gate 2, tu vois, Planescape Torment, des petits jeux. Hein. en plus, dans l'équipe, ils ont rajouté un des noms qui a travaillé sur Fallout, à savoir Tim Kaine, qui est aussi accessoirement Monsieur Arcanum. Enfin voilà, Arcanum, c'est un monument du jeu de rôle occidental aussi. Enfin, pas besoin de le présenter, n'est-ce pas? On a une Dream Team là. Et cette Dream Team a dit, un peu à la Double Fine, tu vois, bon, on n'a pas grand-chose à vous montrer, mais bon, ça c'est un fait, hein, ce
Ouais.
Kickstarter, c'est la tête du client, quoi, ils ont rien à montrer, mais ils ont un CV, quoi.
Ouais.
c'est ça le truc. Et donc, ils ont dit, bon, nous on aimerait bien faire un RPG isométrique à l'ancienne, et pour ça on a besoin d'1 100 000 dollars. Rien que ça. Je pense que c'est pas la plus grosse mise de départ demandée. Sur un projet
Ouais.
Kickstarter. Peut-être Ouya, je crois, peut-être c'était plus, et encore, je crois que c'était 900 000 dollars. Et donc, cette somme, ils l'ont récoltée en un tout petit peu plus de 24 heures.
Tout va bien.
Et ouais, je veux dire, tout va bien, c'est super. Là, ils sont pratiquement, bientôt, ils seront à 1 900 000 dollars. Bon, là, ils sont à un mois encore, ils sont à 1 850 000 ou des poussières. Et voilà. Alors le truc c'est que évidemment vous me direz bah on sait pas grand-chose. Ce qu'on sait c'est que a priori ce sera donc de la high fantasy. Donc là j'en entends gueuler parce que qui dit high fantasy dit elfe et nain, n'est-ce pas?
Exact.
Mais rien qu'à ce niveau-là ils ont voulu se montrer rassurants. Par exemple ils ont insisté sur le fait que certes il y aurait des elfes et des nains, mais ça serait pas forcément les elfes et les nains qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les nains ne seront pas forcément des communistes qui vivent dans une montagne, n'est-ce pas? Et les elfes
Ouais.
ne seront pas forcément des écolos vivent la nature et les petits oiseaux, n'est-ce pas?
D'accord.
Et même pour chaque race, il y aura des groupes ethniques, Ça veut dire que par exemple, là, ils ont montré un artwork d'un Arranger, et plus précisément d'une naine Arranger, n'est-ce pas? Et franchement, c'est assez atypique de ce qu'on a l'habitude de voir, déjà au niveau du design. Ça avait plus la tronche de ce qu'on s'imagine un elfe, tu vois, justement. C'est-à-dire, c'est le chasseur nain, quoi. C'est pas un nain qui est sous sa montagne à forger des trucs. Là, c'était vraiment le chasseur nain. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, en tout cas, à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire, en fait, votre personnage, ce que je trouve intéressant, c'est qu'apparemment, il sera embarqué un peu malgré lui. Ça sera un peu un héros malgré lui, quoi. Il va se retrouver embringué dans un truc et qu'il le veuille ou non, l'histoire avancera, quoi.
D'accord.
Ça, j'aime bien ça, tu vois, les héros malgré eux, ça change un peu des héros qui ont la tête de l'emploi, quoi, on va dire.
Ouais.
Bon, après, évidemment, voilà, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, ils ont posté ce qu'ils veulent, c'est pas grand-chose au final du jeu, hein. C'est juste que ça sera en isométrique, que les décors, a priori, seront, ça sera un mélange de 2D et 3D. Le jeu tournera sur le moteur Unity, pour ceux qui se connaissent, c'est vraiment... C'est un moteur qui est très populaire en ce moment, qui est en tout utilisé sur Westland 2, etc. Et voilà. Donc, c'est le Kickstarter du moment. En même temps, les sous, je pense que, voilà, ils en ont... Bon, si, ils en ont besoin, parce que apparemment, ils veulent vraiment étendre l'univers, etc. Et voilà, de tous ceux que j'ai cités, là, c'est peut-être ceux que, voilà, quoi, c'est ils ont déjà plus que rempli leur objectif, on va dire.
Ouais. Puis l'avantage en plus, c'est que ce jeu-là, enfin cet univers-là, leur appartiendra. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce que bon, on l'avait évoqué déjà à l'époque, en début d'année, on se disait, mais Obsidian, s'ils se lancent dans Kickstarter, il faut bien comprendre qu'ils vont pas se lancer dans les licences qu'on connaît nous deux. Et donc je pense que c'est pas mal de se lancer dans un Kickstarter, parce que ça, là pour le coup, la propriété intellectuelle sera à eux. Du coup, ça posera moins problème par la suite si jamais il y a des suites et autres.
Et en même temps, tu vois, on voit bien dans la campagne, c'est ils jouent clairement sur la nostalgie, quoi. Certes, c'est pas leur licence, mais on voit bien que ils vont prendre le meilleur de Baldur's Gate, Baldur's Gate pour l'interaction avec les compagnons, Planescape Torment pour la qualité d'écriture, la densité d'écriture, Icewind Dale pour la qualité du système de combat. Vraiment, c'est vraiment un putain de Dream Team et on attend de voir ce qu'ils vont faire. Et en plus, je crois, mon cher Morak, que ça n'a pas échappé aux éditeurs, n'est-ce pas? Qui,
oui,
avant le début de ce Kickstarter, j'ai cru comprendre, leur ont fait des propositions assez surprenantes, on va dire.
Alors en fait, il faut savoir que dans Kickstarter, il y a une... À partir du moment où on donne de l'argent, on a accès à un chat qui est privé pour entre les... Enfin, qui n'est accessible que pour les personnes qui ont soutenu le projet. Et en fait, Obsidian a l'habitude de toute façon de parler beaucoup à ses fans, et encore plus avec le Kickstarter. Et en fait, une des grosses têtes d'Obsidian a révélé qu'ils avaient été contactés dans le cadre de leur projet Eternity. Par des éditeurs qui voulaient justement reprendre un petit peu la poule aux œufs d'or à leur compte et dire nous écoutez on vous propose d'éditer le jeu, vous nous donnez l'argent du Kickstarter et puis nous on édite le jeu, tout se passera bien et tout. Alors lui il répond mais si je comprends bien, vous nous demandez de vous donner l'argent, nous on fait le jeu, ensuite vous publiez le jeu et puis la propriété intellectuelle elle est à vous, c'est ça? Et ils ont répondu oui, c'est ça. Et tu sais genre en gros rien à faire quoi, no complexe. Et donc en gros c'est le PDG d'Obsidian, donc Fergus Urquhart qui a révélé ça. Et bon, évidemment il a pas révélé les noms des éditeurs, mais il fallait que ça arrive, j'ai envie de dire. C'est ça fait un petit peu peur, et moi ça m'étonne pas, hein, mais ça fait, franchement, ça fait peur. Hein. Tu sais, genre les éditeurs en mode loup carnassier aux dents longues qui viennent rattraper l'argent où il est partout, c'est waouh. Et c'est bien que qu'il en ait parlé, tu vois, parce que souvent on n'a pas l'aspect derrière l'officiel, et c'est bien d'avoir des gens qui ont pas peur de se lâcher, tu vois.
D'un autre côté, j'ai envie de dire le studio qui accepte ça, franchement.
Ouais.
Ils ont mérité de se faire pigeonner, hein, parce
Ouais,
que pour
putain.
accepter des conditions comme ça, je sais pas, à moins d'être masochiste, qu'il y a un truc à un moment, voilà quoi. Et ah oui,
Exactement ça.
juste une autre chose que je voulais dénoncer parce que ça m'a pas mal choqué. Il s'est passé quelque chose d'assez surprenant sur le Kickstarter d'Obsidian. Alors parmi les récompenses qu'il y avait, il y avait une récompense. Alors je sais plus si c'est un 5 000 ou 3 000 dollars, enfin, peu importe. Et cette récompense, en gros, c'était pour cette somme-là, vous pourrez participer avec l'équipe au design d'un lieu. Enfin, d'une auberge en l'occurrence, vous allez créer des PNJ dans cette auberge, etc. Voilà, c'était l'idée du truc. Et en gros, il y a un site qui s'appelle GameBanshee, je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Et en fait, ce site-là, ils ont dit à leurs lecteurs, vous nous donnez de l'argent pour que GameBanshee file l'argent sur le Kickstarter d'Obsidian. Comme ça, Game Banshee se retrouvera dans les crédits du jeu. C'est pas mal ça quand même, tu vois. C'est quand même un site de presse, bon, qui dit en gros, vous nous filez l'argent pour que vous nous fassiez de la pub. C'est pas mal, hein. Bon, évidemment,
Fallait y penser, n'empêche.
ils l'ont pas dit comme ça, évidemment. Ils ont dit pour que la communauté de Game Manchi entre dans l'histoire. Tu vois, enfin, c'est vraiment bon. En même temps, encore une fois, j'ai envie de dire, s'il y a des gogos pour leur donner, voilà quoi, c'est un peu leur problème, hein. Mais moi, je sais pas, aller donner directement sur le Kickstarter, c'est quand même
Bah oui.
un peu mieux, non? Je sais pas, au lieu d'aider un site à faire de la pub. Pour qu'il se retrouve au crédit du jeu, enfin c'est, je trouve ça totalement débile. Enfin bref.
Ouais, mais moi je croyais vraiment que t'allais dire c'est une arnaque en fait, tu sais, genre en mode on va garder l'argent. Donc moi j'aurais peur personnellement hein, de
C'est
ce
un site
truc-là.
qui a pignon sur rue, hein, quand même. Donc,
D'accord, bon, alors ça va.
s'ils font ça, je pense que là,
Ouais.
il y a des policiers américains qui vont venir les voir, ça va se terminer,
Ouais.
je pense.
Bonjour.
Voilà. Donc, bah écoute. C'est tout pour les Kickstarter cette semaine. Mais on sort pas tout à fait d'Obsidian, n'est-ce pas, puisqu'on va parler de BioWare. Et il se trouve qu'on a appris une terrible nouvelle cette semaine, n'est-ce pas? Les fondateurs de BioWare ont quitté le navire. Bon, d'aucuns diront que oui, ça va, maintenant qu'ils commencent à se faire descendre de partout, ils en ont marre de se faire bâcher, ils se cassent. Il y en a qui étaient déjà là en mode plan sur la comète, ouais ils vont faire un Kickstarter et tout, ils vont faire des jeux, ils vont être indépendants, tu vois, on va retrouver le BioWare d'antan. Eh ben non.
LOL.
Non. Alors, je vous invite à lire la déclaration de ces messieurs sur la page officielle de BioWare, n'est-ce pas? Et en résumé, il y a un des deux fondateurs, je vous dis pas les noms parce qu'ils ont des noms à coucher dehors, hein. Je suis désolé,
Bah alors moi je
mais
vais les dire. Alors c'est Ray Mizuka et Greg Zetschuk.
Bel effort, bel effort.
Bah, j'ai sauté.
Donc, en gros, Monsieur Ray a dit que lui, ouais, c'était trop cool, il avait plus rien à prouver dans le monde du jeu vidéo, il allait monter sa propre boîte. Voilà, le côté créatif, c'était pas forcément son truc. C'était plutôt un bon gros entrepreneur qui, voilà, que lui, ce qui l'intéresse, c'est les challenges, hein, c'est monter une nouvelle boîte. Donc finalement, t'as envie de dire, est-ce que c'est une grosse perte pour le jeu vidéo? Bon, après, voilà, c'est pas pour critiquer non plus. Moi, je peux comprendre qu'on prenne du plaisir, voilà, à être un gestionnaire d'une boîte, à monter sa boîte, et puis quand une fois t'as réussi, t'as envie de passer à autre chose, quoi. Je peux le comprendre. Mais sur le plan créatif, BioWare,
Ouais.
j'ai l'impression qu'ils vont pas y perdre grand-chose, hein. On va dire ça comme ça. BioWare et le jeu vidéo en général. Et son pote, Greg, ben, lui, il veut faire un site sur de la bière. Il veut faire un site sur de la bière, qui apparemment c'est sa grande passion. Il veut être avec sa femme et ses gosses. Donc,
Alors, on va se bourrer la gueule.
d'accord. Et donc, bon. Voilà quoi, j'ai l'impression que ça respirait pas la passion de la création non plus quoi. Donc dans les deux cas, bon, après bon, quoi qu'on pense de la raison pour laquelle ils se sont barrés, hein, Et qu'ils ont été fait tuer dehors par Electronic Arts.
Oui, aussi, ouais.
Bah moi je pense plutôt qu'ils ont pris un bon parachute doré, ils ont pris leur sous-sous, ils ont dit bon allez, salut les jeux vidéo, merci,
Voilà.
bon dimanche et on se taille. Et en fait pour Ray Musica, ce qu'il veut faire lui, c'est apparemment il voudrait soutenir les nouveaux entrepreneurs dans le domaine social. Donc on sait pas, je sais pas trop en quoi ça consiste, mais s'il aime aider les gens, voilà, bah, tant mieux pour lui.
Très bien.
En tout cas, on leur souhaite bon courage.
Donc bon, voilà. Ça a fait un petit drame cette semaine, mais c'était juste pour dire que bon, j'ai pas l'impression qu'au final ça soit vraiment une perte pour l'industrie, quoi.
Bah, en tout cas, si on est en train de parler de BioWare, je pense qu'on peut continuer à parler de BioWare. Parce qu'on va dire qu'ils ont annoncé aussi, suite à leur départ, pour pas que les fans, etc., de BioWare se sentent un peu lésés de leur départ, ils ont dit donc qu'ils travailleraient sur un nouveau projet tout neuf. Donc, on ne sait pas si c'est une nouvelle licence ou je ne sais guère, et aussi qui travaillerait aussi sur un nouvel épisode de Mass Effect.
Et
Donc,
surprise. Et ils ont aussi fait une annonce la semaine dernière sur le nouveau Dragon Age, dont on n'a eu que le titre. C'était bien la peine de faire une annonce,
Dragon Age
hein.
3
clair.
Inquisition.
Voilà. Et c'est à se demander s'ils ont pas fait ça parce qu'il y avait Project était un tir en face. Parce que le timing était quand même bizarre, hein. C'est très suspect, je trouve. Mais bon.
Moi, de toute façon, de manière générale, j'ai du mal avec les non-annonces, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire que, tu sais, genre, on te fait, waouh, on va vous révéler un trailer dans deux semaines. Alors pour ça, on fait un trailer.
Tu as oublié le compte à rebours aussi.
Ouais, et le compte à rebours
Ah,
aussi.
ça, j'aime
Ça,
pas.
c'est là le pire. On a une annonce pour la semaine prochaine et finalement, on te révèle le nom. C'est génial.
C'est trop top. Surtout qu'on savait pas du tout qu'il y avait un Dragon Age 3. On s'y attendait pas.
Ouais, pas du tout.
On savait pas que Dragon Age c'était une trilogie.
Franchement,
En tout cas, pour le prochain Mass Effect, j'ai envie de dire pourquoi faire un autre Mass Effect alors que c'est bon, la trilogie elle est terminée.
Non mais
Pourquoi?
ATH, tu savais
Ouais,
bien
attends,
aussi.
tu peux pas,
Tu
c'est pas
savais très
possible.
bien qu'ils allaient pas arrêter la vache à lait.
Ouais, mais je sais
Bien
pas.
sûr.
Après, si ça devient comme Star Wars, n'importe quoi et plein d'incohérences, là
Bah, c'est le but, hein.
ils nous ont fait la fin des moissonneurs. Ils vont faire quoi? Ils vont revenir encore dans le avant comme dans Star Wars. Ils ont fait épisode 1, la menace fantôme, etc. C'est ça qu'ils vont nous faire. Là, on a eu la trilogie, la première trilogie de George Lucas avec la guerre des étoiles, le retour du Jedi et l'Empire contre-attaque ou je sais plus quoi. Et là, on revient donc au premier. C'est ça. Maintenant, ils vont nous faire la menace fantôme avec la technologie plus évoluée qui
C'est
est dans la
pas
trilogie de
non, mais
base.
franchement, c'est pas exclu qu'il fasse une suite, hein.
Ouais, mais je sais pas. Pour moi, là, c'est la conclusion. Quoi qu'on en dise, c'était pour moi, c'est fini. Après, voilà, argent, argent, argent.
Bien sûr.
Je sais pas. La licence Mass Effect, ça me convenait très bien comme ça. Après, peut-être le jeu, ça sera un très bon jeu, tout ça. Mais voilà, ça serait bien d'avoir
Bah.
des nouvelles idées, de passer à développer une autre licence, peut-être.
De
Ouais.
toute façon, on ne peut pas. Enfin, tu vois, je pense que s'ils disaient on arrête Mass Effect, il y a des fans aussi qui hurleraient au scandale. Donc c'est difficile de marcher sur ces plates-bandes-là. Donc ça m'étonne pas que. Enfin voilà, c'est une licence qui est tellement rentable, ça serait étonnant qu'ils disent on s'arrête là, quoi.
Ouais. Bon, je propose qu'on passe à autre chose, messieurs.
Oui.
Oui.
Donc, on passe à complètement autre chose pour le coup. On va parler maintenant de la Wii U, parce qu'on a eu pas mal d'annonces cet été. Et Mandran, peux-tu nous faire un peu le récapitulatif de ce qui a été dit?
Ouais, un petit récap. Alors en fait, à l'E3 dernier, on était sorti avec une impression un petit peu mitigée quand même de la Wii U. Et évidemment, on n'avait eu aucun détail sur le lancement, sur les jeux de lancement et tout. Donc ça a été en fait, ça a été révélé début septembre, le 13 septembre exactement, lors d'un Nintendo Direct, puisque maintenant c'est la mode chez Nintendo. On n'utilise plus les gros événements, on utilise nos propres événements pour discuter. Donc en gros, on sait maintenant que la Wii U va sortir en premier aux États-Unis le 18 novembre, sortira bah, 10 jours après en Europe le 30 novembre, et dernier au Japon le 8 décembre. Ça sortira en deux bundles, donc un bundle de base avec la console à 8 gigas de mémoire, avec en gros bah, le Wii U Gamepad et le câble HDMI. Voilà. Il me semble que ça coûtera 250 euros, si je ne m'abuse. Un deuxième pack premium, un petit peu à la manière de la Xbox 360 quand elle était sortie, de la Xbox 360 tout court d'ailleurs. Le deuxième pack premium, 32 gigas de mémoire intégrée, un câble HDMI évidemment, et un abonnement Nintendo Network valable jusqu'à 2014. Donc bon, à quoi ça consiste? C'est en gros 10% de remise sur vos achats en ligne sur le Nintendo Shop. Donc bon.
Il veut pas faire de promo plutôt? Non, non, c'est pas.
Et plus des remises de points pour vos achats. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Et un chargeur pour le gamepad. Si vous avez le pack normal, faut que vous l'achetiez évidemment. Alors c'est étrange parce que dans ces bundles, en fait, ils font un petit peu la marche arrière par rapport à la Wii. Il n'y aura pas de jeu intégré dans les bundles de la Wii U, ce qui est assez étonnant. Enfin, on tablait sur un Nintendo Land à l'intérieur, et bien finalement c'est pas du tout le cas. Et donc le bundle premium, il me semble que c'est 300 euros. Donc un placement prix. Enfin, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Ça me dit pas. Ah ouais, c'est pas si cher que ça en fait. Je sais pas. Moi ça me parle pas super ce placement prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, 300 euros, clairement, je vais attendre la version d'occasion, hein, mais.
Bah moi, la version d'occasion ou pas la version d'occasion, j'attendrai rien du tout encore pour le moment. Les jeux qui étaient annoncés, ça, je sais pas, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. C'est que pour l'instant, à part les exclus Nintendo, les jeux, ils ont déjà été annoncés sur PS3 et Xbox 360, donc Darksiders, Batman, etc. On les a déjà eu. La seule chose
Il y a le
qui.
Rayman quand même.
Oui,
Il passe.
ouais, je vais faire le récap des jeux Day One qui sortiront le jour du lancement en Europe. Donc il y aura FIFA 13, Mass Effect 3 Special Edition, New Super Mario Bros. U, Nintendo Land Rayman Legends, Trine 2 Director's Cut, Zombie U, Assassin's Creed 3, Just Dance 4, Your Shape 2013, Les Avengers, Sports Connection et Sonic All-Stars Racing.
Oh
Voilà, je peux
putain.
respirer maintenant. En gros, moi personnellement, il y a que trois jeux qui m'intéressent.
Moi, il n'y en aurait que un vraiment dans la liste. Enfin, parce qu'après, à part Assassin's Creed et tout ça, qu'on n'a pas eu, mais qu'on aura aussi sur les consoles qu'on a, il y a que vraiment le seul jeu que je voudrais avoir, que je suis sûr que je n'aurai pas sur les consoles, c'est Zombie U, quoi, que j'aimerais bien tester pour voir si on est de ce survival, s'il est plutôt pas mal ou pas. Et voilà quoi, après, à part ça, franchement, la Wii U, 300 euros pour jouer à une machine qui va être techniquement dépassée d'ici peu, avec la sortie de la next-gen, voilà. J'ai un
Ah,
peu.
faut compter 450 euros, hein. Enfin 400 euros facile si tu veux un jeu en plus, hein.
Voilà, donc.
Donc voilà,
Oui.
c'est un gros investissement, un lancement de console, hein.
Juste une remarque, vous dites d'ici peu, mais moi j'ai remarqué que Sony avait récemment annoncé une nouvelle version de sa PS3, parce que bon, on parlait d'une nouvelle console, évidemment ce n'est pas la PS4, hein, parce que
Bien
sinon
sûr.
là tout le net serait en ébullition, n'est-ce pas? Donc une nouvelle version de la PS3, moi mine de rien, le fait de voir ça, je me dis ils n'ont pas l'air décidés à la sortir tout de suite alors PS4 à Sony.
Mais apparemment
Je suis
les
d'accord.
éditeurs ils pressent ils pressent les Sony et Microsoft pour avoir des nouvelles machines, hein. Ce qui a été
Ah bah.
rapporté, c'est que voilà, même on a eu plusieurs citations de comme je crois Bethesda, etc., qui ont dit que les machines actuelles ont trop duré en fait.
Et dernière chose concernant la Wii U, ça fait beaucoup gueuler sur Internet, c'est Bayonetta 2 qui est en développement sur Wii U et exclusivement sur Wii U. Alors les gens ont crié au scandale, ils se sont dit mais ouais, mais Bayonetta était multiplateforme, on comprend pas. Mais c'est qu'en fait, Platinum Games n'a pas trouvé le financement autre part que chez Nintendo pour développer son Bayonetta 2, donc ça sera une exclusivité Wii U, et donc c'est compréhensible si c'est Nintendo qui paye que ça soit
Ah, c'est
chez
plus édité par
Nintendo.
Sega.
Non, Nintendo en fait ont donné le financement pour Bayonetta 2 parce que vu les ventes mitigées du premier, ils se sont dit que voilà, c'était pas intéressant de ressortir le 2 sur PS3 et Xbox 360. Donc ils ont parti présenter le projet à Nintendo qui ont financé le projet. Et ce qui a fait que bah voilà, c'est une exclusivité Nintendo, en même temps c'est normal.
En tout cas, faut pas se leurrer, c'est la guerre, hein. C'est la guéguerre habituelle des exclusivités. Quand il y a une nouvelle console qui arrive, il faut une exclusivité. Et bon, quand ça peut être Bayonetta 2, surtout quand c'est aimé par les joueurs comme celle-là, c'est sûr qu'ils vont pas se priver. Donc voilà, c'est compréhensible d'un côté aussi. Enfin, faut voilà, c'est si vous êtes vraiment fan de Bayonetta, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Bah en tout cas,
Bah voilà.
bravo Nintendo pour ce coup-là.
Ouais. Bon, on va passer maintenant à nos impressions du Tokyo Game Show, n'est-ce pas?
On n'a pas parlé de la PS3 Slim.
Mais si, on en a parlé.
Et si, bon, je viens d'en parler.
Ah oui, d'accord, ok.
Bah, en même temps, mais qu'est-ce que tu veux en dire? Oui, c'est une PS3 plus fine.
Bah, qu'elle sort la semaine prochaine, voilà.
Ouais, mais bon. Mais tout le monde s'en fout. Non, mais voilà, c'est un fait. Tout le monde s'en fout de la PS3 Slim. C'est un fait.
Non, c'est pas la PS3 Slim, c'est la PS3 Super Slim. Et quel est le prix de cette nouvelle PS3, Mordren?
300 euros.
Super.
300 euros, voilà.
Bundle 500 gigas avec FIFA 13. Voilà,
Donc voilà,
300 euros.
c'est ce que je dis. Tout le monde s'en branle. Super.
Exactement.
Bon alors, nous allons passer sur le Tokyo Game Show qui a été super en révélation, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce TGS, messieurs?
On doit vraiment le dire? Non, parce que j'ai peur de ne pas savoir me montrer diplomate, en fait.
Bah, il faut... Je suis désolé, nous devons être honnêtes.
Ben, y a rien, quoi. Enfin, non, j'exagère. Y a deux, trois jeux qu'on a retenus. Enfin, deux surtout. En gros, moi, le nouveau Phoenix Wright. Le nouveau Graffiti Rush. Parce que quand même, c'est l'un des jeux qui nous a fait le plus baver l'année dernière. Et c'est l'un des jeux qui me fera acheter une PlayStation Vita, personnellement. Bon, on peut inclure aussi Professor Layton versus Phoenix Wright. Mais celui-là, ça fait un moment qu'on entend parler. Donc... Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça le problème de ce Tokyo Game Show, quoi. Il y a plein de choses là. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on entend parler. En fait, j'ai l'impression de revoir la même chose que l'année dernière, en moins bien. C'est assez dramatique quand même, quoi.
Alors les grosses annonces qui ont enfin les grosses annonces pour le TGS qui ont été annoncées quand même, on a eu du Monster Hunter 4 donc pour le Japon.
Super.
Non mais je dis les grosses annonces qui ont été faites pour le public japonais. Donc
Ouais.
Monster Hunter 4 qui a été fait pour donc pour là-bas pour le Japon, c'est une licence qui marche du tonnerre. Les annonces qu'on a eues aussi pour le Japon et en dehors, c'est une suite à Dragon Dogma qui est Dragon's Dogma Dark Arisen.
Alors ce qu'il faut souligner en fait avec Dark Horizon, c'est que c'est une grosse extension. Alors, on sait pas sous quelle forme elle sera diffusée, est-ce que ça sera un gros DLC, est-ce que ça sera une sorte d'add-on qui sortira en boîte, on sait pas. Mais on peut imaginer quand même que ce sera un prix un petit peu moins cher que d'habitude. Alors moi quand on me dit extension, c'est ça que j'imagine aussi. Donc voilà, c'est pas ça peut être pas mal pour pour ceux qui ont aimé Dragon's Dogma. En tout cas, ça sortira pas tout de suite, hein. On n'a aucune nouvelle là-dessus, par contre.
Bah il sort ici, il a été prévu pour l'année prochaine.
L'année prochaine, d'accord, ok. Donc évidemment sur PS3 et 360, hein.
Et voilà, et ce qu'on a eu d'autre comme annonce sur ce salon, on a eu aussi Yaba Ninja Gaiden. Donc un Ninja Gaiden en cel shading qui va être développé par la team Ninja. Donc j'ai bien aimé les premiers les Ninja Gaiden 1 et 2. Le 3, j'ai pas joué, mais apparemment c'est une grosse bouse. Celui-là, j'attends
Putain,
d'un.
comment il y va?
Non, mais moi, je suis honnête,
J'ai
mesdames.
pas joué, mais c'est de la merde, hein.
Non, mais
Apparemment.
j'ai fait la démo, j'ai trouvé ça vraiment naze. Par rapport, le jeu, il est plus du, les, le 3, il est plus du tout compliqué par rapport à ce qui faisait le sel des deux premiers. Là, le 3, enfin, celui-là qui a été annoncé, Yaba, en cel shading, il a l'air vraiment joli. Et ce qu'on apprend, c'est que le personnage Yaba sera la poursuite du héros des anciens.
Ninja Gaiden.
Voilà, de Ryu de Ninja Gaiden.
En tout cas, ça a vachement la classe, hein. Ouais, je voulais dire par rapport à Gravity Rush, donc en fait on a rien vu du jeu, mais par contre le directeur du jeu en fait a dit à des journalistes qui ferait mieux pour la suite, en fait, en parlant de Gravity Rush, et il dit chut, c'est un secret. Donc en gros, bon voilà, il y aura un Gravity Rush 2. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc ça fait potentiellement deux jeux qui nous feraient acheter la PlayStation Vita,
Mais c'est devenu.
Gravity Rush et Gravity Rush 2.
Ah, super. Donc, là, ouais, c'est vrai que pour la pauvre Vita, c'est un peu dommage quand même.
Ben oui, c'est aussi un des trucs qui m'a inquiété sur ce salon, c'est que encore une fois, comme à l'E3, comme à la Gamescom d'ailleurs, enfin, il y a eu des petites choses à Gamescom apparemment, mais où sont les jeux de la PlayStation Vita, quoi?
PlayStation Vita est déjà morte et enterrée, donc.
Mais
Mais
non, elle arrive en coloris rouge et bleu.
Ouais, c'est super!
Moi, je suis de plus en plus inquiet, là. Les ventes décollent pas, le catalogue, il y a toujours... On a l'impression que Sony sont dans une période de flottement, là. Qu'est-ce qui va se passer avec la PlayStation Vita? Franchement, même si j'avais l'intention d'en acheter une, le fait qu'ils aient complètement stoppé la communication là-dessus, ça t'incite pas à en acheter, quoi. Je veux dire, déjà que la console est pas gagnante à cause de son prix, etc. Là, ça commence à devenir très très compliqué, quoi.
Mais t'en fais pas, ça sert à rien de l'acheter. Hein. L'année prochaine, il est de nom. Tiens, une PS Vita, mais non, mais prends-la, s'il te plaît.
Non, mais tu dis ça en rigolant, mais je suis sûr qu'en magasin, les vendeurs, ils s'arrachent les cheveux. Hein,
Bah,
parce
apparemment,
que...
ce que j'ai vu, c'est que les vendeurs, ils en commandaient même, ils voulaient même plus en commander parce que ça leur faisait des stocks pour rien. Et ça sent le roussi quand même.
Non,
Ouais,
mais...
je sens bien les bons de réduction arriver après Noël, moi.
Le truc qui est inquiétant, c'est que la PSP, au moins, elle marche au Japon, tu vois.
Voilà.
Alors que là, même le Japon... Alors, ok, t'as eu un petit sursaut là cet été grâce à Project Eva de Sega, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et enfin, c'est une licence qui fait de bonnes ventes, mais c'est pas un système seller, quoi, non plus, quoi.
Et le fait que Monster Hunter 4 sort sur 3DS, ça va foutre encore un gros mal pour le marché japonais à la PS Vita. Hein. Parce que...
Ouais, vu les queues qu'il y avait pour Monster Hunter 4 cette année, oui, c'est sûr.
On a vu une visite du stand des Capcom et ils ont montré la queue de Monster Hunter 4 affolante. Il y avait, je crois, il y avait même Max Payne 3 qui était distribué par Capcom là-bas au Japon. Il y a personne. Resident Evil 6, il y avait 3-4 technos comme ça qui étaient traînés par là-bas. Mais après le reste, voilà, Capcom c'était vraiment Monster Hunter 4 quoi.
Bon, je propose qu'on en finisse avec le Tokyo Game Show, messieurs, avant que vous ayez quelque chose à ajouter.
Bah, The Last Guardian toujours absent et apparemment ils ont fait une news pour dire comme quoi le jeu avait été annoncé trop tôt. J'ai envie de dire bah ouais mais c'est bien de dire ça mais je sais pas ça fait combien de temps qu'ils l'ont lancé? En 2006 je crois qu'il a été annoncé.
Ouais, non, mais voilà, j'ai envie de dire, bon, The Last Guardian, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore qui l'attendent? Moi, personnellement, j'en attends rien, mais bon, voilà, quoi.
Bah moi j'en ai un peu marre d'attendre ce jeu même qu'il sort pas qu'il sort, je m'en fous.
Juste aussi un petit mot sur Phoenix Wright 5 quand même, parce que c'est quand même l'un des jeux qui a l'air de plus le vouloir rénover sa licence un peu. Donc, alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour le coup, cet épisode sera en 3D, en 3D cel shading. Alors d'un côté, tu vois, je suis un peu dans l'expectative parce que comment dire, les trailers qu'on a vus jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que les musiques avaient carrément moins de pêche que sur les épisodes GBA. Et aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est que le fait qu'il y ait des animations 3D, ça ralentisse complètement le rythme de Phoenix Wright, en fait. Parce que je rappelle, Phoenix Wright, c'est vraiment des trucs quand le mec fait objection, tu vois, t'as pas une animation de fou. Mais du coup, ça donne un dynamisme, tu vois, au procès. Alors que là, j'ai un peu peur, tu vois, que comme il va falloir animer tout ça, etc., que ça. Le rythme sont un peu dilué, quoi. Et alors que c'est franchement la grande force des Phoenix Wright, quoi. Mais sinon, franchement, la direction artistique, ça a l'air génial. Et la perspective de retrouver enfin Phoenix, vu que il avait été laissé un peu tomber sur le quatrième épisode, là, voilà, quoi.
Ouais, quoi, en plus, il est vraiment beau, hein. Pour de la 3DS, c'est vraiment vraiment beau, hein. D'habitude, c'est dans les trailers, tu vois de l'aliasing là, mais dans le trailer de Phoenix Wright, tu vois rien du tout, quoi. La 3D, elle est parfaite, quoi. En cel shading, c'est vraiment impressionnant.
Bah, moi, Phoenix Wright, en tout cas, j'ai confiance en cette licence. C'est une licence que j'apprécie. J'ai pas trop été déçu jusque-là. Donc, je fais vraiment confiance au mec qui développe ce jeu. Et pour finir, moi, vraiment sur le Tokyo Game Show, pour finir, après Yaba, le jeu où on tranche, j'ai envie de dire qu'il y a un autre jeu des impressions qui ont été plutôt bonnes, que j'attends aussi. C'est un autre jeu qui tranche, et Metal Gear Rising Revengeance, que j'attends. Qui.
Voilà, la transition de fou.
Eh oui, bah, c'est ça. Hein. Celui-là aussi, je l'attends pas mal. Et voilà, donc je suis plutôt content des impressions qui ont été faites. Il faut pas le prendre, je le prends pas comme un, je le prends comme un, vraiment comme un spin-off. Pas un, voilà, c'est juste un jeu pour couper, on peut couper à peu près tout, n'importe quoi, et ça a l'air vraiment pas mal.
D'ailleurs, y a eu, on en profite, hein, vu que ça fait partie des choses de l'été dont on aurait dû parler, n'est-ce pas? C'est donc le nouveau Metal Gear, Ground Zeroes.
Oh, nouvelle transition.
Bah, en même temps, voilà, quoi, t'as fait une transition à deux balles, tu peux me permettre d'en faire une aussi. Donc.
Mais j'avais fait exprès celle-là pour te mettre le tremplin pour que, hop, tu refasses une autre transition par-dessus.
D'accord. Donc, bon, le truc, c'est que, alors moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Autant c'est beau, effectivement. Autant moi, il y a des trucs là sur la vidéo, sur le plan du gameplay qui font un peu peur pour le moment. Mais parce que il y a eu, faut savoir qu'il y a une version longue, un peu plus longue que le trailer du départ qui faisait à peu près 11 minutes, 10-11 minutes, où là ils avaient rajouté 2-3 minutes derrière, et on voyait en fait un peu plus de gameplay quand même, quoi. Et moi, franchement, l'aspect infiltration au jeu, il me fait de plus en plus peur, quoi. Plus la vidéo avançait, plus je me disais, mais alors attends, je résume. Là, il vient de tirer une balle dans la tête d'un mec. T'as un projecteur qui fait une espèce de batignolle en l'air sur toute la base. Il y a personne, ça a l'air déranger personne. Hein. Bon, on met admettons, hein, pourquoi pas. Après tout, c'est la tempête, peut-être qu'il voit pas. Hein. Et 2 secondes après, alors il y a les histoires de véhicules aussi. La grosse nouveauté, ça sera un jeu open world. Je me dis, bon, alors les véhicules, comment ils vont gérer ça? Mon Dieu, pour tout l'aspect infiltration, à partir de quel moment est-ce qu'on va décider que t'es en mode infiltration, etc. Est-ce qu'un mec qui conduit une Jeep avec une combinaison optique, c'est pas un peu suspect, tu vois, enfin, ce genre de truc. Il y a aussi, enfin, là, non, mais vraiment, ce qui m'a choqué, c'est la fin, où là, t'as un hélicoptère qui débarque en plein milieu d'un campement militaire avec de la chevauchée des Valkyries à fond les ballons, tu vois. Y a personne qui réagit, quoi. Y a même pas un tir de DCA, rien. C'est génial.
Mais si Solid Snake est trop fort.
Alors bon, c'était pour tempérer un peu les impressions dithyrambiques qu'il y a eu à la suite de ce trailer, parce que c'est vrai que sur le plan technique, moi j'ai rien à redire, hein. Franchement, s'ils arrivent à afficher ça sur les consoles d'aujourd'hui, parce que c'est bien ça le sujet, hein, là bravo. Mais le truc, c'est que moi que Kojima, il me fait jamais peur sur le plan de la mise en scène technique. Je pense que franchement, c'est un des studios japonais qui se débrouille le mieux. Mais vraiment, là où je l'attends tournant, c'est sur le gameplay. Pour le moment, moi ce que j'ai vu, c'était pas rassurant, quoi.
Bah moi, pour chipoter un petit peu sur l'aspect technique, c'est vraiment juste histoire de chipoter, hein, parce que aujourd'hui j'aime bien faire mon relou. Ce qui me dérange un peu, c'est, tu sais, par rapport à la pluie, on a l'impression que quand on voit le sol, le sol est un peu trop, on dirait c'est un sol métallique en fait, il brille trop. Je sais pas, c'est fait pas vraiment naturel. Et encore pour chipoter un petit peu, les effets d'éclairage qui sont un peu trop forts. Mais voilà, ça c'est vraiment. Après, je pense que ça va être réglé avec le temps. Mais ça, c'est vraiment, tu vois, c'est du pinaillage. Et après, comme tu as dit, c'est vrai que par rapport au gameplay, avec l'hélicoptère qui arrive, alors que tu es en mode infiltration dans une base militaire, que personne ne réagit. Enfin, je suis autant choqué que toi, parce que c'est toi qui m'as montré d'ailleurs cette version longue, parce que je ne l'avais pas vue. Ça fait un petit peu bizarre. L'aspect des véhicules qu'on pourrait utiliser en. Voilà, quoi. Je sais pas comment ils vont réussir vraiment à gérer ce système par rapport au gameplay, ou bien si Kojima va encore nous faire un truc Kojimesque, on va dire, avec le scénario. Ah oui, en fait, Snake, quand il monte dans la voiture, la voiture devient invisible, et Snake aussi, elle fait pas de bruit. Enfin, tu vois, je sais pas
Non, parce
comment.
que on va dire que le mec il a pas exactement une tenue de civil, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Même s'il aurait une tenue civile, dans un campement militaire, il n'est pas habillé comme eux, quoi. Ça fait un peu chelou, quoi. Avec un bandeau de pirates en plus, là. Tu vois un mec qui se balade comme ça en Jeep, tu te dis, ok, mais c'est qui c'est ce
Tout va bien.
mec? Mais
Voilà, quoi.
vraiment, c'est vraiment comment ils vont gérer l'aspect ouvert, quoi. Parce que moi, en plus, je me souviens de promesses sur Metal Gear Solid 3, par exemple, par rapport à tout l'aspect survie. On se rappelle ce que ça a donné, hein. Ça a donné des serpents qui se transformaient en boîte
En ration.
ouais, en boîte de ration, quoi. Enfin, c'était totalement surréaliste, quoi. Super l'aspect survie, quoi. Et là, c'est pareil. On me dit, ouais, le monde sera ouvert. Ah ouais, mais il sera ouvert dans quelles conditions, quoi, sur le plan du gameplay, quel impact ça va avoir sur le plan du gameplay, là, on va dire que j'ai pas trop la confiance, quoi.
Et après, je sais pas comment ça va être géré le système de mission, parce que comme ils disent le monde ouvert, ça va être quoi? Ça veut dire que en fait, on va devoir se déplacer d'un terrain d'opération à l'autre, par exemple, en prenant l'hélicoptère. Mais après, pour déclencher une mission, comment on va faire par rapport au scénario, déclencher une mission, ça va se passer comme dans un GTA? Tu vas avoir un Gus qui va donner une mission? Enfin, je sais pas, ça m'a l'air un peu compliqué pour le moment. Donc, j'attends de voir d'éventuelles informations supplémentaires sur ce Ground Zero.
Voilà. Bon, d'ailleurs, tant qu'on y est sur les impressions de l'été, là, tu voulais pas nous dire que Resident Evil 6 c'était de la merde, d'ailleurs?
Bon, alors.
Non, parce que là, j'essaie d'abréger, en fait, hein, parce que, pourtant, si c'est pour dire ça, j'espère que ça sera un peu plus construit, quoi.
Donc, c'est déjà, c'est pas Resident Evil 6 qui est c'est les impressions de la démo. Je parle bien de la
Ouais.
démo parce que la démo vraiment dégueulasse. Donc, Léon, c'est sympa tout ça, mais bon, il n'y a pas de moteur physique. Tu peux pas déplacer des objets en marchant dessus, par exemple des chaises ou je sais pas. Il n'y a pas de collision quand tu tires sur les éclairages, tout ça, alors qu'on est en 2012.
Wow.
Wow. Donc voilà, c'est pour moi, bref, c'est Capcom, quoi. C'est un studio, ils ont voulu tout miser sur ça. Ce que je trouve pas bien dans la démo 6, je trouve que le jeu il est moins beau que par rapport à Resident Evil 5, mais peut-être que c'est dû à la démo qui est compressée parce que j'ai vu qu'elle faisait que 800 MO, donc c'est pas beaucoup. Peut-être que c'est par rapport à ça en fait, que à la version finale il sera plus beau, etc. Mais la campagne de Chris et de Jack, je me suis vraiment cru dans plein Medal of Honor. Aucun. Ça correspond pas à Resident Evil du tout. C'est vraiment pire que le 5. Franchement, de ce que j'ai vu, c'est vraiment pire que le 5. Là, dans le 5, déjà, on avait les zombies qui conduisaient des motos. Là, dans celui-là, on a t'as des zombies qui ont encore muté dans une nouvelle forme et qui te tirent dessus. Bref, c'est Call of Duty. C'est pas. Voilà, c'est moi, quand j'avais joué à Resident Evil, c'est pas pour Jack, les Call of Duty, tout ça, c'est pas mes types de jeux prédilection. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment. Quand j'ai joué à ça, je me suis dit que Capcom, ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Alors que au début, ils avaient dit que le reboot, Resident Evil 6 serait un vrai reboot de la série. Ça serait totalement différent avec ce qu'on a vu auparavant. Là, c'est vraiment différent, mais si c'est pour faire un truc différent comme ça sert à rien, quoi. J'ai envie de dire.
Et rassure-moi, on doit toujours s'arrêter pour tirer.
Non, non, maintenant ça, ils ont fini, mais
D'accord.
c'est devenu un TPS, un
D'accord.
TPS qui reprend les codes des jeux qui sont sortis, mais en moins bien, quoi. C'est mal géré, quoi. Déjà, la caméra est trop proche du personnage. T'as du mal à voir un petit peu ce qui se passe devant toi, parce que le personnage, il prend trop de place devant toi à l'écran. Les animations, elles sont datées, par rapport, voilà. Donc, pour un blockbuster comme ça, j'ai envie de dire, voilà, moi, Resident Evil 6, je vais passer mon tour.
Bon, après, il y a eu des retours de la presse, de gens qui ont joué à d'autres versions, etc., qui disaient que la partie avec Léon, notamment, ressemblait vraiment à Resident Evil 4. Il y a vraiment eu plusieurs impressions très positives. On va passer maintenant vite fait aux dates, hein, parce que
Ouais,
sinon
vite
le
fait.
podcast va durer 3 heures. Monster Hunter 4, début 2013 sur 3DS.
Au Japon.
Le système seller arrive bientôt, n'est-ce pas? Ensuite, Sly Cooper, Teaser Time, en mars 2013 en Europe.
Ouais, moi j'aime bien cette série. C'est sur PlayStation 3, attention, hein, pas sur Xbox 360. Et donc pour ceux qui l'auraient découvert avec la collection HD par exemple, bah, ça peut être un bon jeu à attendre pour le début d'année prochaine.
Une licence que j'affectionne particulièrement, Yakuza 5. Putain, déjà. Oh la vache.
Ouais, c'est clair.
Le 6 décembre au Japon. Alors, on n'a pas eu d'annonce pour l'Europe encore,
Oh,
j'imagine.
très certainement 2 ans après.
Oui, comme d'habitude avec Sega. Et pour terminer, War of the Roses. Alors là, pour le coup, c'est un jeu médiéval. Ça me fait penser à premier abord à Mountain Blade. En gros, qui mélangeait stratégie et combat à l'épée. Ça a l'air vraiment très particulier, ça a l'air sympa. Donc,
C'est très médiéval, ça sort le 2 octobre
ouais.
et c'est troisième personne. Hein. Mountain Blade, c'est première personne et celui-là, c'est troisième.
Nothing has been able to slow the enemy down. is upon us. We are experiencing heavy casualties. Our operatives represent the best our nations have to offer. They are aided by our most advanced technology. But still they fall. Do not be careless with the lives of your troops, Commander. Few will survive to see the end of this conflict. Fewer still will possess the skills necessary to end it. Good luck, Commander.
XCOM Enemy Unknown, à ne pas confondre avec XCOM, qui est un FPS qui sortira en 2013 a priori, développé par Take-Two, et donc XCOM, enfin édité par Take-Two, pardon. XCOM Enemy Unknown, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. C'est la suite de UFO Enemy Unknown, donc c'est qui sortira finalement avant le spin-off FPS XCOM. Mmh. Ça sort le 12 octobre 2012. C'est édité par Take-Two, c'est développé par Firaxis, qui sont les développeurs de Civilization. Ça sortira sur Xbox 360 et PlayStation 3 et PC, oui. Ça, en gros, à quoi j'ai pu jouer, j'ai joué aux trois premiers niveaux du jeu. J'ai eu le droit à une heure de run, donc c'est pas long, mais c'est déjà pas mal pour se forger des premières impressions. Alors au niveau du scénario, je vais pas vous la faire à l'envers, hein, c'est une invasion extraterrestre de la Terre. L'équipe XCOM, qui est spécialisée dans la gestion des menaces extraterrestres, est là pour sauver ce qu'ils peuvent de la Terre.
Oh, trop cool.
Donc voilà, nous on incarne évidemment, comme dans tout jeu de stratégie, un commandant de cette équipe-là, qui va gérer chacun des soldats d'une équipe pour dans chacune des missions, souvent dans un terrain urbain pour essayer d'éradiquer la menace extraterrestre ou de sauver par exemple des personnages clés dans le combat. Alors première chose, oui.
Juste une précision, c'est bien un jeu de stratégie à la troisième personne, ce n'est pas un shooter, pour être bien d'accord.
Ah, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, et en fait tu gères chacun des soldats tour à tour, en fait tu les fais se déplacer. Il y a un jeu de caméra en fait qui te fait croire que c'est un jeu que c'est un shooter à la troisième personne, mais c'est pas ça du tout, hein. C'est un jeu de stratégie.
C'est un peu comme
En voyant les images, ça pourrait envoyer les gens peut-être, donc
c'est vrai.
Est-ce que c'est un peu
comme quand on regarde les trailers, c'est vrai, t'as l'impression.
Est-ce que c'est un peu comme Valkyria Chronicles?
Oui.
C'est ça?
Oui. À la différence près que dans Valkyria Chronicles tu te déplaces avec les personnages à la troisième personne, justement, alors que ici, tu déplaces vraiment tes personnages comme un jeu de stratégie au tour par tour, c'est-à-dire que tu as une vue de dessus, tu vois tes personnages, tu cliques sur ton personnage et tu le déplaces vers l'endroit où tu veux qu'il se déplace. D'accord. Et à ce moment-là seulement, tu as la vue en caméra qui suit ce personnage de dos.
D'accord.
Donc c'est vraiment pas... Il n'y a pas d'élément de TPS dedans. C'est vraiment de la stratégie au tour par tour. Voilà. Alors premier élément, donc c'est hors des missions. Vous avez en fait, vous gérez la base de l'XCOM, et c'est assez intéressant comme concept visuel. En fait, t'as vraiment l'impression d'être devant une fourmilière. C'est comme si ton écran en fait était un plan de coupe de la base. Donc en fait, tu as accès à toutes les salles différentes. Donc tu as la salle de débriefing, la salle d'entraînement des soldats. Et c'est assez intéressant comme concept visuel. Je vous invite à regarder des images. C'est très sympa. Enfin, c'est pas souvent qu'on voit des trucs comme ça. Et puis c'est marrant. Alors c'est de là que vous pourrez accéder aux différents paramètres de votre unité. Donc vous pouvez choisir vos soldats, vous pouvez les entraîner, les équiper, les customiser parfois. Bon, alors bon, j'ai essayé. L'éditeur de soldats est pas ouf. Hein. Très franchement, c'est pas hyper fouillé, mais bon, c'est sympa de pouvoir customiser un petit peu chacun de ces soldats, de leur donner des noms par exemple, ça peut être intéressant. Vous pouvez rechercher évidemment d'autres capacités, d'autres armes. Il y a la salle de briefing où vous pourrez choisir vos missions. Donc ça donne un rendu assez vivant et j'aime beaucoup l'effet un peu fourmilière, c'est assez sympa. Alors quand vous choisissez des missions, il faut faire très attention à ce que vous allez choisir puisque en gros sur le choix des missions vous en avez évidemment plusieurs à choisir et plusieurs qui pourraient être différentes en termes de résultats. Si par exemple il y a une mission qui vous demande d'aller sauver quelqu'un en Chine, si vous décidez d'aller sauver cette personne-là, ça veut dire que la mission qui est aux États-Unis, vous n'allez pas la faire et que va y avoir une invasion un petit peu plus poussée aux États-Unis. Ce qui fait qu'il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur de panique qui va monter aux États-Unis, qui va redescendre en Asie. Et plus la panique augmente en fait dans un des continents, moins votre financement est fort et plus les missions sont dures. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à qui vous aidez, comment vous les aidez et à quelle fréquence. Donc ça c'est assez intéressant à gérer comme paramètre et j'imagine que si tu mets le jeu en mode difficile, ça doit être encore plus intéressant à gérer. Donc il me semble que j'étais en mode normal moi. Enfin, on te pose pas la question quand on fait une démo comme ça, mais en gros, c'est jamais difficile pour que tu puisses voir les jeux au maximum. Ensuite, quand on est vraiment dans l'émission, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, on est en vue de dessus, vraiment en mode tour par tour, vous contrôlez une équipe de 4 soldats. Donc idéalement, il faut tenter d'avoir une équipe assez complémentaire avec un soldat léger, un soldat lourd, un sniper, etc. Et donc vous les déplacez. Et ce qui est très 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 important, c'est de toujours mettre son personnage à couvert. Donc il y a un système de couverture qui est assez bien fichu. Donc les demi-couvertures, les couvertures totales et les pas de couverture, en gros. Donc si votre personnage n'a pas de couverture, il a très peu de chances de survivre au tour suivant. À demi-couverture, il peut se prendre des dégâts. Quand il est complètement couvert, évidemment, il se prendra pas de dégâts. Sauf si, évidemment, l'ennemi t'attaque au bazooka, là, c'est différent. Donc ça, c'est intéressant comme système de couverture et c'est absolument crucial. Bon, c'est assez classique, hein, bien évidemment. De même pour le système de mouvement, vous pouvez choisir de faire un double mouvement et à ce moment-là, vous ne pourrez pas faire d'action une fois que vous arrêtez. Si vous faites un mouvement simple, vous pourrez ensuite tirer. Ou vous mettre dans un mode qui s'appelle le mode veille ou le mode Overwatch en anglais. En gros, l'idée c'est que le personnage va tirer dès qu'un ennemi sera en vue et à portée dans le tour suivant. Donc ça peut être vraiment très intéressant en termes de défense. Si vous avez une position à défendre, c'est intéressant dans la mesure où vous tirez peut-être pas sur ce tour-là, mais s'il y a un ennemi qui se déplace dans votre champ de vision, le soldat va directement tirer sur lui. Donc, faut faire attention aussi parce que l'ennemi aussi a cette option-là et il se gêne pas pour l'utiliser. Donc, faites vraiment attention quand vous vous déplacez en terrain pas couvert. Voilà. Quand vous utilisez des armes lourdes, il faut pas se déplacer si vous voulez les tirer pendant ce tour-là. Donc, c'est très très classique, mais ça fait plaisir de jouer à un jeu dans ce genre-là sur console parce que j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu. Beaucoup sur console.
Donc, pour résumer, c'est classique dans le fond,
Ouais.
mais c'est assez complet, quoi.
C'est assez complet, c'est simple à prendre en main. Souvent, si tu regardes par exemple UFO Enemy Unknown, qui était sorti dans les années 90, c'est vrai que c'est assez indigeste maintenant. On n'a plus l'habitude d'avoir autant de texte à l'écran. Là vraiment tout est simple, accessible, mais c'est pas pour autant que c'est trop simple.
Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est simple, mais est-ce que c'est simpliste?
Non, c'est pas simpliste. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a pas mal d'options. C'est assez. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser sur le fond. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pas forcément très facile. Il y a un système de destruction de décor, donc si vous tirez à l'arme lourde dans un bâtiment, il y a de fortes chances que ça détruise le bâtiment et que les gens qui sont à côté ou à l'intérieur en soient très touchés. Il y a un système de tir ami, donc si vous envoyez une grenade et qu'il y a un pote à côté, il y a de fortes chances qu'il crève lui aussi. Il faut faire très attention parce que si vous avez un soldat qui meurt en mission, il est mort. Vraiment.
au nom d'un genre d'autre.
C'est permades, y a pas
voilà, mort
pas
permanente.
De résurrection,
Et dans un, il y a pas de possibilité de résurrection. En tout cas, dans ce que j'ai vu, il y en a pas.
Mais on pourra trouver un autre profil pour le remplacer, non?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Bon,
mais le problème, c'est que s'il meurt, ce personnage, tu l'as entraîné. Tu lui as donné des armes que tu as recherchées, tu lui as donné des modes d'armes, des trucs que tu as payés avec ton argent. S'il meurt, tout ça, tu l'as perdu. Donc il faut faire, voilà, c'est pas rien quand même de perdre un personnage dans ce jeu-là. Et c'est vraiment très intéressant, justement, parce que c'est des équipes qui sont réduites, c'est ce qu'on appelle de la micro-gestion, c'est on gère un personnage par un personnage, et du coup, si t'en perds un, enfin, parfois, j'imagine, moi, je fais le parallèle avec Fire Emblem. Si tu perds un personnage dans Fire Emblem, il y a un côté affectif qui vient, tu vois. Moi, personnellement, quand je perds un personnage dans Fire Emblem, j'éteins la console et je recommence la mission.
Oh, le
Donc là,
tricheur.
je pense que ça va exactement être la même chose dans XCOM Enemy Unknown, sauf que cette fois, c'est un univers un petit peu plus science-fiction. Et donc, je pense que c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou je peux conclure sur mes impressions?
Non, je pense que c'est bon.
Okay.
En gros, est-ce que c'est un jeu que tu achèterais?
Ouais, moi franchement, c'est un jeu que je trouve très intéressant. Alors, c'est dommage qu'il sorte en fin d'année comme ça, à un moment où c'est vraiment très peuplé en très très gros jeux. Ça sort le 12 octobre, je le rappelle. Moi personnellement, j'ai eu de très très bonnes impressions, un très bon feeling avec ce jeu. C'est le genre de jeu que moi personnellement j'apprécie et qu'on voit très peu sur console. Donc ça fait vraiment plaisir de se mettre là-dedans. Et moi personnellement, j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer. Donc c'est un jeu que j'achèterai peut-être pas le jour de la sortie, mais que j'achèterai, c'est certain, un petit peu plus tard, genre vers Noël ou un truc comme ça, parce que j'ai eu vraiment un bon feeling. Alors après, voilà, j'y ai joué 1 heure. Est-ce que le jeu est très court, je ne sais pas. Ça sera à voir dans notre test final, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai eu de très très bonnes impressions là, sur ce XCOM Enemy Unknown.
Ok. Bon, messieurs, je vous propose que l'on passe au point culture. Et je propose que vous fassiez court, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, parce qu'on a pris une bonne résolution cette année, c'est d'essayer de faire des podcasts 1 heure, et là on n'a pas réussi pour la
déjà
première.
Dépassé.
Donc
Bien
on
joué.
Va essayer de faire court, s'il vous plaît, messieurs, et donc on va parler de quoi cette semaine?
Ta-na-na-na.
De Batman Dark Knight Rises.
There's a storm coming.
You sound like you're looking forward to it.
I'm adaptable.
What are you?
I'm Gotham's Reckoning.
Severe.
Do you think he's coming back?
I don't know.
Why would you run, Bane?
You should be as afraid of him as I am.
I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family.
You don't owe these people anymore. You've given them everything.
Not everything. Not yet.
Mother warned me about getting into cars with strange men.
This isn't a car.
Donc, je résume, messieurs, dames. À ma gauche, Morden, qui apprécie le film. À ma droite, ATH, qui dit que c'est de la merde. Fight.
Non, moi, en fait, c'est pas vraiment de la merde, parce que dans ce film, il y a des choses quand même à retenir qui sont très bonnes. Mais moi, ce que je reproche au film, vraiment, c'est son rythme. Mais bon, d'abord, on va revenir un peu sur le synopsis de ce Batman Dark Knight Rises. Bruce Wayne plutôt, est en pleine dépression. Il reste enfermé dans son manoir, ça fait plus de 8 ans en fait. Et la criminalité à Gotham City a vraiment diminué depuis grâce aux événements de
Dark Knight.
Voilà, donc tout va bien, sauf que Bruce Wayne, voilà, il est enfermé, plus personne ne l'a revu. Donc voilà, c'est le point de départ de ce Batman. Et au bout d'un moment, on a un nouveau ennemi qui arrive, qui est donc Bane, qui vient foutre un peu la merde dans Gotham City et dans le monde aussi un peu, et qui décide d'imposer sa propre loi. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est vraiment le personnage de Bane qui est super bien travaillé par rapport... Parce que moi, au début, quand j'ai vu que ce nouveau méchant, ce nouveau vilain allait être celui-là, je me suis dit, ouais, mais Bane, c'est pas un personnage vraiment très important de Batman. C'est même plutôt un second couteau, quoi, qu'on...
Non. Dans les comics, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est un des personnages les plus importants des comics. Bah après, je sais pas, si tu te bases sur les jeux vidéo, j'y ai pas joué. Donc,
En tout cas, dans Batman Arkham City et Arkham Asylum, c'est vraiment un second couteau. C'est un ennemi bête et méchant.
D'accord.
Et là, qui a juste des gros points et tu lui mets 2-3 tournures dans la gueule et après, il pleure, quoi. C'est vraiment pas un mec, je sais pas, c'est pas pour moi dans les jeux vidéo, et même quand j'étais petit dans la série animée de 80 qui est passé sur France 3, c'est pas un mec qui m'a vraiment marqué, quoi.
Alors, d'accord. Bon, ouais. En gros, tu as été agréablement surpris.
Voilà, parce que c'est franchement, ils l'ont bien travaillé, il est intelligent, il est méchant, mais il est pas méchant pour être juste méchant, en fait. C'est pas comme le Joker qui est fou. Lui, c'est vraiment, tu vois, il a des idées dans la tête. Il est vraiment malsain aussi. C'est vraiment un gros taré. Donc vraiment un gros point fort sur ce personnage-là, comme ça, qui est vraiment puissant, il a un charisme, c'est certain.
Vraiment bien joué par Tom Hardy qui joue Bane. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai juste une petite réserve. A priori, toi, ça t'a pas gêné. Moi, j'ai un problème avec sa voix, en fait. C'est moi personnellement, ça m'a gêné, ça m'a coupé un petit peu avec ce personnage là je trouve qu'il a une voix pas hyper charismatique, ça m'a un petit peu gêné.
Vous l'avez regardé en VO ou en VF?
En VO, moi personnellement.
Moi, je l'ai regardé en version française.
Ah d'accord. Alors,
mais étant donné qu'il a un masque, c'est ça qui fait qu'il déforme sa voix, quoi.
Peut-être, ouais, bien sûr.
Ils ont peut-être joué sur ça, donc.
Prochainement. C'est pas le plus important du film. En tout cas,
c'est un point où vous avez l'air d'être à peu près d'accord. Donc, a priori, c'est pas là où. Voilà,
c'est déjà pas mal.
Il y a le conflit. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points positifs à TH?
Je sais pas, après. Les effets spéciaux et tout ça, ouais, c'est plutôt bien fait. Mais on va passer directement à ce que j'ai pas aimé. C'est par exemple, le fait que. Le film, il met vraiment trop de temps à démarrer. Quand je viens au cinéma pour regarder Batman, je veux m'attendre à un minimum d'action. Là, c'est vraiment que du blablabla, blablabla, blablabla. Ça pinaille pour dire rien du tout, ou bien pour pas vraiment grand chose, je trouve. Et c'est vraiment ça qui me donnait vraiment l'impression de vouloir sortir de la salle tellement je trouvais ça lent et fastidieux, quoi.
Ah ouais, t'en avais marre au point de vouloir sortir de la salle, quoi.
Ouais, enfin, moi, je voulais que, quand je vais voir Batman, je veux qu'il vienne, il mette 2-3 mandats à des vilains, et il en mette une grosse correction, quoi. Je m'attends à de l'action. Je m'attends pas à ce qu'il papote pendant 50 ans. C'est sûr que pour l'histoire et tout ça, c'est bien qu'il y a de la parlotte. Mais je m'attendais probablement pas à ce point-là autant de blabla, quoi.
Ok. Donc, Morren, en face, s'il te plaît. Est-ce que tu trouves vraiment que c'est du blabla pour rien, tout ça?
Ben non. Alors, en fait, moi, je suis vraiment le cas contraire d'ATH. C'est-à-dire que je suis hyper d'accord. Le film est super long. Ça fait presque plus de 2h30, je crois. Donc, c'est vraiment super long par rapport à d'habitude aux films qu'on voit au cinéma, surtout quand c'est des blockbusters. Je suis totalement d'accord. Par contre, moi, je me suis pas fait chier une seconde, quoi. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, putain, ça fait 2 heures que je suis là, j'ai envie de me casser. Et c'est vraiment différent. Moi, personnellement, je l'ai vraiment vécu comme un rythme lent, mais nécessaire, en fait. Parce que, vraiment, là, Christopher Nolan, il a voulu construire le climax de son film en fait. C'est-à-dire que bon, je peux pas spoiler malheureusement, mais il y a vraiment une logique ascendante dans son film et c'est normal que du coup ça commence lentement au départ. Donc moi je l'ai vu vraiment comme ça, ce qui fait que j'étais vraiment complètement dans le film et quand le climax est arrivé, j'étais vraiment à fond quoi.
Bah,
donc je comprends que toi t'es pas été à fond comme ça parce que si tu t'attends évidemment à avoir de l'action tout le temps, faut aller voir Avengers.
Non
mais faut pas aller voir Dark Knight Rises.
J'aime bien l'histoire tout ça, mais là c'est vraiment voilà, et on tire sur la longueur. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen de faire plus court. Aussi Batman, au plein milieu de la moitié du film, on le voit plus pendant un moment. Batman disparaît comme ça.
Ce qui est logique quand on voit le film.
Ouais, c'est logique, mais. Pourquoi on vient voir Batman, on n'est pas venu voir
Alors justement, moi je pense que ça ce n'est pas un problème si les autres personnages sont consistants. Alors c'est la question que je vais vous poser du coup, est-ce que les personnages secondaires ont suffisamment de, enfin je voulais pas dire de charisme mais de d'intérêt pour justement compenser cette absence, parce que moi j'ai pas vu le film hein, je vous le dis tout de suite, mais a priori moi ce truc là ça me dérange pas si derrière t'as vraiment un casting qui assure quoi. C'est pas un problème.
Bah Mandan, je te laisse la parole.
Ouais, bah déjà faut voir qu'en gros le casting de second couteau de Dark Knight Rises, c'est quoi? C'est Morgan Freeman, c'est Gary Oldman, c'est Marion Cotillard, c'est Tom Hardy. C'est bon, voilà, c'est pas des merdes quand même. Donc j'ai envie de dire qu'en termes de jeu d'acteur, tout va bien, sauf à la fin pour Marion Cotillard, mais ça c'est autre chose.
J'ai pas entendu la polémique là-dessus.
Voilà, bon, ça c'est autre chose. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus.
Bah ouais, mais, on est d'accord, si tu veux, dire que c'est de la merde.
Sans spoiler, l'absence de Batman force Gotham City en fait et les personnages secondaires à entrer dans une phase qui est en gros moi, ce que j'appellerais de la résistance en fait. Et je trouve qu'en fait c'est vraiment hyper intéressant parce que d'un côté on a le développement du personnage de Bane et après tu as les autres personnages de secondaires donc qui sont du côté des gentils qui essayent de justement de fourbir leurs armes, qui essaient d'essayer de résister à l'oppression de Bane et je trouve que c'était vraiment vraiment intéressant. C'est peut-être un peu long, d'accord, mais moi c'est pas ça qui m'a gêné, c'est le côté un petit peu répétitif de des scènes de Batman justement à ce moment-là. Mais vraiment moi je pense que c'était vraiment intéressant de mettre justement les personnages secondaires au premier plan. On n'a pas vraiment l'habitude de ça au cinéma et je pense que ce côté-là, enfin c'est assez risqué quand même de se lancer là-dedans scénaristiquement parlant et je trouve qu'il a vraiment bien fait Christopher Nolan.
Bah pour
toi, du coup alors qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans?
Bah en fait comme il a dit, c'est que c'était un peu long et que de mettre les personnages de second couteau les mettre en avant, c'est un peu risqué, c'est vrai. Moi je trouve que pour Bane, comme je l'ai dit, c'est bien fait parce que là on ressent le psychopathe qui est en lui mais après les autres Morgan Freeman dans le film, déjà je trouve, même dans les anciens Batman, je trouve pas qu'il a un rôle super intéressant. Il est là juste pour en tant qu'exécutant quoi en fait, je suis là, c'est moi Morgan Freeman, mais on aurait pu mettre quelqu'un d'autre à la place que ça aurait pas vraiment gêné. Il a pas un rôle vraiment dans le film, c'est dans tous les films de Batman, il est pas super super important que ce soit Morgan Freeman qui ait eu ce rôle-là. On aurait pu mettre n'importe qui d'autre, ça serait passé normal. Marion Cotillard, c'est bien d'avoir mis Marion Cotillard pour dire voilà, c'est actrice vedette qui monte à Hollywood, la petite Frenchie qui est à la côte. Mais voilà, dans le film Marion Cotillard quoi, ça m'a pas, qu'ils mettent Marion Cotillard aussi, ça m'a pas fait rêver quoi, plus que ça.
On va dire que la performance t'as pas convaincu quoi.
Voilà.
Bon, là on est d'accord tous les deux.
Donc voilà ce que j'avais à dire sur ça. Après franchement même par rapport au niveau de l'histoire de Batman, Gotham City dans les anciens épisodes, on sentait vraiment une Gotham City sombre et Gotham City en elle-même était un personnage, j'ai envie de dire, de l'univers de Batman. Alors que là, dans celui-là, Gotham City, ça devient juste le théâtre d'action et on sent plus vraiment Gotham City qui a cette atmosphère si oppressante quoi dans les anciens Batman.
Ben oui, tu l'as dit toi-même, le Gotham City a changé depuis les événements de Dark Knight
Voilà.
et ça se ressent forcément.
Bah, je
Du
trouve ça un
coup,
peu dommage par rapport à. Parce que dans l'univers de
ouais.
Batman, quoi, je m'attends vraiment à un Batman sombre, tu vois, que un peu comme dans le, tu vois, le The Dark Knight. Et c'est vraiment The Dark Knight, on l'appelle pas le Chevalier Noir pour rien. C'est vraiment un truc qu'il faut qu'il sorte de la nuit. Tu vois, une chauve-souris qui, voilà. Alors là, je trouve vraiment le film trop lumineux par rapport aux anciens épisodes. Les effets de, voilà. Et franchement, à part les effets spéciaux que j'ai trouvé pas mal, Bane qui franchement qui dépote comme je m'attendais. Vraiment, Bane, il m'a vraiment mis une grosse claque, quoi. Franchement, ça, j'avoue que voilà, c'était la bonne surprise du film.
Mais franchement, le côté sombre du film, moi je trouve, transparaît dans son thème plus que dans le côté visuel en fait. Donc bon, mais malheureusement je peux pas donner de détails parce que là ça serait spoilé,
Et de toute
mais je
façon,
voilà.
ça fait trop longtemps que vous parlez, donc je vais pas vous
Voilà, oui, c'est trop long.
interrompre. Voilà. Donc, pour résumer, si vous voulez voir vraiment qu'un film d'action ou un film court, c'est pas la peine, parce que le
Ouais,
film est
c'est pas la
long,
peine.
et de toute façon, l'action, il n'y en a pas tellement que ça non plus, apparemment.
Ouais.
Donc,
Enfin, c'est gros moment à la fin, mais c'est tout, quoi. Je pense que pour les fans d'action, c'est pas suffisant.
en fait, ouais, moi, je découpe ça en trois actions. Au début, il y a de l'action. Milieu du film, t'as un peu d'action, et à la fin, en fait, t'as trois grosses scènes d'action qui sont vraiment trop éloignées par rapport les unes par rapport aux autres.
Ok. Pour le reste, on vous laissera juger en fonction de l'argumentation de nos deux interlocuteurs, n'est-ce pas? On va vous laisser pour cette semaine. On revient la semaine prochaine, sans Mandred, malheureusement, en espérant que monsieur aura une connexion internet.
En espérant, croisez les doigts.
Bon, a priori, l'Angleterre, c'est pas le tiers-monde, hein, donc
Bon,
Ouais,
on peut
ça
peut-être
devrait
teaser
être le cas
aussi
quand
sur,
même.
sur l'arrivée de, éventuellement, de un nouveau venu, une nouvelle venue, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Nouvelle venue, vous faites
Si
pas
on
trop
sait.
d'illusions, mais d'ailleurs, oui, on en fait un appel, hein, parce que bon, il y a eu des polémiques cet été, je crois, sur joystick, enfin, ça a fait tout un tas d'histoires. Nous, les femmes, on est ouvert à tout le monde, hein. On prend n'importe qui, hein. Dieu sait que notre rédacteur en chef était moi, on prend vraiment n'importe qui dans cette émission. Donc, que vous soyez femme, homme, venez, on est ouvert, n'est-ce pas? Allez, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!
À
bientôt.